À l'écoute de RFI, 20h30 ici à Paris, 18h30 en temps universel, 21h30 à Antananarive.
Afrique Soir sur RFI.
Et la session soirée de l'info se poursuit, place à toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes avec vous, Sylvie Béré. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À Madagascar, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission franco-malgache d'historiens sur la répression de l'insurrection de 1947. Dans le même temps, il appelle à intégrer Mayotte dans la commission de l'océan Indien. Les Comores s'y opposent et revendiquent la souveraineté de cette île de leur archipel. Le conflit dans l'est de la RDC, le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent une avancée après la déclaration de Kinshasa et des rebelles de l'AMC M23 affirmant vouloir une trêve. En Côte d'Ivoire, après la radiation de ce candidat Ditian Thiam des listes électorales qui l'écarte de la présidentielle d'octobre, le PDCI peine à mobiliser. L'économie, Washington annonce de nouvelles coupes en Afrique. Et puis musique, l'Afro Club, ce sera en compagnie d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Voilà pour le sommaire. Au dernier jour de sa visite à Madagascar, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission mixte franco-malgache d'historiens sur les massacres commis lors de l'insurrection de 1947. Sa visite aurait dû s'achever par la toute première restitution française de restes humains, celle des crânes sakalaves, dont celui présumé du roi Toer, décapité par les troupes coloniales françaises en 1897, finalement pour des questions de dissension entre les différentes branches des descendants du roi et de calendrier coutumier, la restitution a été reportée à août prochain. À Antananarive, Sarah Tetto.
Il aura attendu la toute fin de son court séjour malgache pour l'annoncer. Quelques minutes avant de quitter la Grande Île, Emmanuel Macron a donc déclaré face à la presse que le président Andj Radzoen et lui avaient décidé d'instaurer une commission mixte franco-malgache d'historiens pour faire notamment la lumière sur le massacre de mars 47 et les répressions d'insurgés tout au long de la colonisation. Les atrocités qui ont été commises à cette époque restent encore une plaie très forte dans l'histoire de Madagascar, a-t-il expliqué. C'est aussi, je cite, un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir. Sans plus donner de détails, le président français a donc annoncé la mise en place de travaux communs, une déclaration qui intervient une semaine jour pour jour après la création de la commission mixte franco-haïtienne. Contactés par RFI, les historiens malgaches saluent cette décision qui leur permettra, ils l'espèrent, d'accéder enfin aux archives de la police coloniale. Un pas de plus pour lever notamment le voile sur le nombre réel de victimes des répressions, selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Et dans le même temps, s'est ouvert le 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien, toujours à Antananarive. En parallèle des discussions autour de la sécurité alimentaire, Emmanuel Macron et Azali Assoumani ont évoqué le sujet qui fâche, à savoir la potentielle intégration de Mayotte au sein de cette commission, plaidée par Paris mais refusée par Moroni qui revendique ce territoire. Alors par déclaration publique interposée à la tribune du sommet, les chefs de l'État français et comoriens ont une nouvelle fois afficher leur désaccord. Pauline Le Troquier.
Face à ses homologues malgaches, séchellois et mauriciens qui ont toujours pris soin de rester à l'écart d'un dossier jugé franco-comorien, Emmanuel Macron s'est donné pour mission de convaincre. Le président français défend une question d'équité.
Nous ne pouvons pas laisser un territoire et ceux qui y vivent à l'écart d'un certain nombre de nos programmes. Je pense bien évidemment à Mayotte. Nos territoires font face en effet aux mêmes défis et ces défis ne connaissent pas les frontières. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous pour avancer de manière pragmatique vers cet objectif.
Fin de non-recevoir immédiate d'Azali Assoumani. En prenant à témoin l'Assemblée, le chef de l'État comorien rappelle que plusieurs résolutions des Nations Unies ont tranché en faveur de la souveraineté de Moroni sur Mayotte et interpelle frontalement Emmanuel Macron.
Mon cher frère Emmanuel Macron, j'ai un professeur qui s'appelle Ludo Funès, qui m'a appris qu'il ne faut pas répondre aux provocations. Je tiens également à rappeler que l'ADN de la CEI, c'est le respect du droit international. L'île de Mayotte est une île comorienne. Nos pays en sont les témoins.
Le chef de l'État comorien a toutefois affirmé que le dialogue n'était pas rompu et que les deux parties cherchaient à aboutir ensemble à une solution moralement acceptable. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Sa visite événement en Afrique du Sud tourne court. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, abrège son voyage à Pretoria après de nouvelles frappes russes qui ont fait au moins 8 morts à Kiev. Visite au cours de laquelle le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à un cessez-le-feu inconditionnel en Ukraine. L'Afrique du Sud, a-t-il dit, est profondément préoccupée par la poursuite du conflit en Ukraine. La perte continue de vies civiles, les dégâts causés aux infrastructures essentielles et la détérioration de la situation humanitaire. Fin de citation. Le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent la déclaration du gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 affirmant vouloir une trêve dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué conjoint lu hier soir à la télévision nationale, Kinshasa et le groupe armé affirment vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve. Alexandra Bonjon.
Médiateur dans cette crise, le Qatar salue ce qu'il qualifie d'avancée et appelle Kinshasa et l'AFC M23 à poursuivre le dialogue dans un esprit constructif. Les délégations n'ont annoncé ni trêve ni le début de véritables pourparlers, mais leur communiqué commun suscite déjà beaucoup d'espoir. C'est la première fois que les deux parties publient un communiqué officiel à l'issue de leur discussion au Qatar. Dans ce communiqué conjoint, le gouvernement congolais et l'AFC M23 affirment avoir mené des discussions franches et constructives. Ils affirment avoir convenu de travailler ensemble à la conclusion d'une trêve qui permettra l'instauration d'un cessez-le-feu effectif et se disent prêts à respecter l'ensemble des engagements avant d'ouvrir un dialogue constructif. À noter que cette annonce survient après une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed Al-Khulaifi, en charge du dossier, et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, signe pour certains de la pression exercée par Washington pour parvenir à une solution durable au conflit.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h37. À Cotonou, le Bénin, toujours sous le choc après l'attaque menée contre 2 positions des soldats de la force anti-djihadiste de l'opération Mirador. Opération qui a fait 54 morts parmi les militaires, c'était le 17 avril. Le bilan très lourd a été confirmé hier soir par les autorités. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, a revendiqué cette attaque qui reste la plus meurtrière jamais enregistrée dans cette région du Triple Point, c'est-à-dire la zone frontalière entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
Et la CEDEAO a réagi.
La communauté ouest-africaine dénonce un acte barbare et lâche et dit condamner avec la plus grande fermeté cette attaque terroriste odieuse qui a causé de nombreuses pertes humaines et fait de nombreux blessés. Je cite « Les djihadistes cherchent à semer la terreur et à déstabiliser les États membres de la CEDEAO », avance encore le communiqué publié par l'organisation. Les assaillants étaient arrivés nombreux à moto avant de lancer leur opération d'une grande violence. Le bilan de 54 morts parmi les militaires béninois a suscité l'émotion parmi la population. Interrogé par RFI, Aboubakar Baparapé, le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin, évoque un coup de massue sur la tête de la population de plus en plus inquiète et qui se demande quelle sera la prochaine cible selon lui. La question de la coopération du Bénin avec ses partenaires occidentaux est posée, avec une partie de l'opinion publique qui s'interroge aussi sur la nécessité d'organiser la lutte antiterroriste avec les pays frontaliers depuis lesquels sont parfois menées ces attaques. Le gouvernement béninois a effectivement regretté mercredi une coopération défaillante avec les pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, sans les nommer directement.
Merci Léa, Lisa Fabian. Alors on va voir justement quelle est la stratégie du JNIM au Bénin, qui a revendiqué, vous l'avez dit, cette attaque qui est la plus meurtrière dans le pays. Le docteur Abdel Aziz Mossi, socio-anthropologue et enseignant à l'université de Parakou, spécialiste des questions liées à la radicalisation, répond aux questions de Nicolas Sûr.
Le territoire béninois reste un territoire qui est très convoité dans le but donc d'avoir ce contrôle et d'avoir cette possibilité de se mouvoir dans l'espace des 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Je pense que le JNIM doit être dans une stratégie de contrôler sans gouverner. Ils essayent donc de contrôler à la fois les communautés qui sont dans cet espace, mais aussi contrôler l'espace géographique pour avoir la possibilité de se mouvoir comme ils peuvent le faire et puis traverser le territoire béninois, se retrouver aussi du côté du Nigeria ou même du côté du Togo. Bref, ils cherchent une mobilité plus aisée dans cette zone-là, non pas forcément pour créer un État qu'ils vont forcément gouverner, mais créer un espace où ils assurent le contrôle total à la fois sur le territoire, mais aussi sur les populations pour pouvoir mener des activités, y compris des attaques dans les autres pays comme le Burkina Faso et le Niger, où la menace est encore beaucoup plus pressante sur cette organisation-là.
Mais est-ce qu'il a des bases en territoire béninois ou est-ce qu'il attaque depuis le Burkina et le Niger voisins?
Des bases fixes, non, pour le moment. Il n'a pas encore de base fixe sur ce territoire-là, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas plus ou moins permanent sur ce territoire. Ils ont quand même des points d'attache au niveau des communautés locales qui leur fournissent des informations sur la position de l'armée et qui leur donnent forcément le top pour pouvoir faire des attaques surprises.
Le gouvernement béninois regrette le manque de coopération avec les pays voisins, le Burkina et le Niger. Ces trois pays ne travaillent pas du tout ensemble, il n'y a pas de coordination militaire, pas d'échange de renseignements.
Alors, officiellement, il n'y a pas du tout de coopération entre ces trois pays, malheureusement. Le Bénin avait signé un accord de coopération militaire avec le Niger, mais avec la situation que vous connaissez, le Niger a dénoncé cet accord-là. Et donc, désormais, le Bénin n'a plus la possibilité d'intervenir, parce que dans cet accord, il était question que le Bénin ait la possibilité donc d'intervenir sur le territoire nigérien, je crois jusqu'à 10 kilomètres, et que le Niger également ait cette possibilité. Mais désormais, cette possibilité n'est plus d'actualité. Et donc, le Bénin est confiné à l'intérieur de ses frontières, alors que nous savons que ces attaques où les assaillants viennent majoritairement donc de ces territoires, notamment le Burkina Faso et le Niger.
Le docteur Abdelaziz Moussi, socio-anthropologue et enseignant à l'université de Parakou, avec Nicolas Sûr dans Afrique Midi.
Abidjan 97.6 FM.
Et partons en Côte d'Ivoire où deux jours après la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, son parti, le PDCI, peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle d'octobre. Des marches étaient prévues dans le pays, mais il faut dire qu'elles ont eu très peu d'écho. Binta Diagne.
Dès 8 heures, les principales artères qui entourent le palais de justice sont bouclées par les forces de sécurité. Pendant ce temps-là, dans le tribunal, les audiences se tiennent normalement. Première affaire inscrite au rôle, Valérie Yapo contre Tidjane Thiam. Cette cadre du PDCI qui avait été sanctionnée par son parti conteste la légalité de son élection à la tête du PDCI lors du congrès de décembre 2023, comme l'explique son avocat, Maître Gérard Nguetta.
Le président qui a été élu au PDCI n'était pas habilité, compte tenu du fait qu'il soit français, à diriger ce parti et à faire prendre une décision d'exclusion de notre cliente. Et c'est cette décision que nous sommes venus attaquer devant le tribunal sur le fond.
L'affaire est renvoyée au 8 mai. Quelques ruelles plus loin, les militants du PDCI arrivent au compte-gouttes, à la permanence du parti, toujours motivés à exiger la réintégration de leur candidat.
S'il n'y a pas l'un des titans sur la liste, on ne peut pas mettre l'un de quelqu'un d'autre sur la liste. Parce que c'est Tidjane Thiam qui le présente pour PDCI NDA. Donc on est là pour lui.
Mais le retard et la faible mobilisation poussent les organisateurs à revoir leur programme. Simon Doho, le président du groupe parlementaire du PDCI.
Nous avons décidé, en toute responsabilité, de reporter pour suivre l'actualité. Le 8 mai, il y aura une nouvelle séance. Nous serons présents. C'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes engagés.
Tidjane Thiam, le président du parti, suit ces événements de loin, en France, où il séjourne depuis quelques semaines. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
L'économie en plein chamboulement de l'économie mondiale, cette nouvelle coupe de Washington dans ses financements en Afrique, le gouvernement de Donald Trump ordonne la fermeture du Millennium Challenge Corporation, une agence qui a été créée il y a 20 ans. Elle avait investi 17 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures à destination de l'Afrique. Les États qui en bénéficiaient n'auraient pas encore été informés officiellement, mais cette organisation va se retirer immédiatement des projets qu'elle finançait. Alexis Bédu.
Tout est très soudain. Encore le 3 avril dernier, le MCC lançait un avis de passation de marché pour des sites de stockage au Sénégal. Valeur de l'investissement pour l'ensemble du programme sénégalais, $500 million. Le MCC finance également sous forme de dons des projets d'infrastructures en cours de développement en Zambie, au Mozambique ou encore au Togo. On parle là de construction de routes, de modernisation de réseaux électriques, des investissements américains indispensables pour faire aboutir ces projets qui ont aujourd'hui du plomb dans l'aile. Des dérogations ont tout de même été autorisés. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Les travaux d'un échangeur au grand carrefour de Koumassi à Abidjan, financé par le MCC, pourront se terminer. Le Sénégal disposera de 3 mois pour sécuriser les chantiers en cours. Suspension des travaux, mais sans forcément pouvoir les achever. Le MCC est moins bien doté que l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international, également en cours de démantèlement par Donald Trump, mais c'était une aide importante pour les pays et surtout un outil d'influence pour les États-Unis.
Au Ghana, les phases finales du championnat de football scolaire d'Afrique battent leur plein pour cette 3e édition. Ce sont 16 équipes U15, 8 de garçons, 8 de filles qui s'affrontent pour décrocher le titre. La finale aura lieu le 26 janvier, mais plus qu'un tournoi sportif, l'événement qui fait participer plusieurs centaines de milliers d'écoliers et écolières chaque année depuis 2022 peut servir de réel tremplin pour les jeunes joueurs. Reportage au stade de l'université de Légion. Lors des phases de poule avec notre correspondant Victor Carillo.
Match de poule Côte d'Ivoire-Sénégal, score final 0-0. Sur le banc, Désiré Amiens ne tient plus en place. Le sélectionneur des Éléphantos, nom donné aux U15 ivoiriens, saisit toute l'importance pour ces jeunes de briller lors de ce championnat international.
C'est pour gagner des lauriers, pour porter le drapeau de la Côte d'Ivoire haut. Mais d'autres iront dans les pays du Maghreb, comme il y a certains de nos jeunes qu'on a formés qui sont aujourd'hui en Tanzanie. Vraiment, on forme nos enfants pour qu'ils s'exportent.
Encore faut-il se faire remarquer par des recruteurs, de plus en plus nombreux à chaque édition du championnat scolaire africain, selon la Confédération africaine de football. Une donnée que Jonathan Nyokogusso, joueur U15 de la sélection ivoirienne, a bien en tête.
Je mets encore plus la pression, je m'améliore ainsi de suite. C'est une occasion aussi, une opportunité. Donc maintenant, Inch'Allah.
Plus qu'un tremplin individuel, le championnat scolaire permettrait de consolider depuis la source les sélections nationales du continent. Martin Namboni est coach adjoint de l'équipe féminine U15 du Bénin.
Actuellement, nous avons nos U17 féminines qui jouent la qualification pour le mondial. Et cette équipe est constituée à 98% des joueuses venant des championnats scolaires. Ça va servir réellement au niveau des clubs du pays.
Une montée en puissance des équipes africaines par le bas pour, à terme, pouvoir améliorer la compétitivité de tout un continent lors des événements internationaux. Victor Cariou, Accra, RFI.
Allez, il est 20h47 ici à Paris. On va retrouver dans quelques instants la seconde partie d'Afrique Soir. Sylvie Berruet avec la sélection musicale de l'Afro Club d'Hervé Mandina. Mais pour l'heure, un point sur l'actualité de ce jeudi soir dans le monde. Et la pression qui monte à l'égard de la Russie, des frappes menées la nuit dernière contre la capitale ukrainienne Kiev ont fait au moins 12 morts et elles font vivement réagir. Le message de Donald Trump sur son réseau social, Vladimir arrête, écrit en lettres majuscules, évidemment en référence au président russe Vladimir Poutine, alors que le président américain ces dernières semaines a tenté de se rapprocher de Moscou. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir utilisé un missile fabriqué en Corée du Nord lors des bombardements menés la nuit dernière. Et puis la forte émotion à Nantes, dans l'ouest de la France. Une lycéenne a été tuée lors d'une attaque au couteau menée par un élève de l'établissement. Ça s'est passé dans un établissement privé de la ville. Il y a également 3 autres blessés. L'assaillant a été interpellé. Sur place, le Premier ministre François Bayrou appelle à un sursaut collectif, tandis que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dénonce un fait de société. Allez, suite d'Afrique Soir, Sylvie Berruet, et la première édition de ce jeudi, on part à présent en Centrafrique.
Oui, on va visiter la mosquée de Lakwanga, qui est un exemple de cohésion sociale et du vivre ensemble entre les communautés. Elle se trouve dans le 2e arrondissement de Bangui. C'est un lieu de culte qui avait été complètement détruit en 2014 à l'époque. Bangui était déchiré par des violences interreligieuses entre, d'un côté, miliciens Séléka, majoritairement musulmans, de l'autre, anti-Balaka, majoritairement chrétiens. 10 ans après, elle est devenue l'emblème de la réconciliation, et c'est un reportage de Rolf-Steph Domialeux.
Sur le toit de la mosquée de Lakwanga, le muezzin est confortablement installé dans une pièce décorée de versets coraniques. À ses côtés, une horloge affiche les heures des 5 prières qui rythment la journée des fidèles. Christian Emendota est l'initiateur de la réhabilitation. Ce journaliste et partisan de paix habitait non loin de la mosquée. Aujourd'hui, il regarde fièrement les fidèles qui arrivent dans ce lieu sacré où les musulmans étaient indésirables entre 2014 et 2015.
On a vu cette foule converger vers la rue de la mosquée et on était là impuissants. Et on a entendu des bruits de destruction et après on a vu des gens repartir, certains avec des tapis de prière, des tôles, certains avec des chaises. Même d'autres ont pris les appareils de sonorisation. dégradation, il y a eu le vol, il y a eu le vandalisme.
À quelques mètres de la mosquée, Mario, un jeune de confession chrétienne, enlève ses lunettes noires pour bien regarder le bâtiment réhabilité. Il fait partie de ceux qui avaient protégé la mosquée.
Le jour où ils ont détruit la mosquée de la Kwanga, j'avais écrit sur internet, j'envoyais des textos, on faisait des réunions, on mobilisait les jeunes pour dire que nous, on est natifs de la Kwanga, on a vécu ensemble avec tous les musulmans qui vivaient ici à la Kwanga, c'est pas à nous de venir détruire la mosquée, respecter la confession de tout un chacun.
Détruite en mai 2014, la mosquée de la Kwanga avait pourtant été réhabilitée avant d'être à nouveau détruite en 2015. Grâce à la mobilisation des habitants du secteur et quelques bienfaiteurs, les travaux de réhabilitation ont été relancés le 24 avril 2015. Christian Aimé Ndota.
10 ans après, ça c'est comme un symbole. Et en baptisant cette mosquée, c'était une manière de montrer à ceux qui n'aiment pas la paix dans ce pays que c'est véritablement un symbole de paix pour que la République centrafricaine demeure définitivement dans la paix et la réconciliation.
À l'intérieur de la mosquée, plusieurs centaines de fidèles sont assis sur des nattes ou des tapis dans le respect de la tradition. Dans sa prédication, l'imam Salih Ndiaye insiste sur le mot pardon.
La mosquée de la Kwanga est un lieu sacré. Lorsque tu détruis un lieu sacré, tu attises la colère de Dieu sur toi. Il ne faut pas que les manipulations politiques nous poussent à diviser le peuple en faisant une guerre de religion.
Chaque semaine depuis 10 ans, un comité de paix sensibilise les habitants de la Kwanga et des autres quartiers de la capitale sur la préservation des lieux sacrés lors des mouvements de colère. Rolf Esteve, Donnale, Bongi, RFI.
RFI 18h51 à la pendule universelle.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous pour son rendez-vous du jeudi certifié Afroclub. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir ma chère Sylvie, bonsoir à tous.
Alors un menu très varié ce soir encore. On va commencer avec le Togo pour la mise en bouche et le chanteur Katal et son hymne à la gratitude, reconnaissance.
Oui, Katal a dévoilé sa reconnaissance le 18 avril dernier en guise de successeur à son précédent single « Pour toi » publié en février en duo avec le chanteur béninois Nicolas. Katal est enraciné dans son héritage culturel dans lequel il puise son inspiration à outrance pour nous donner des musiques afro-urbaines fabriquées sur mesure. Dans Reconnaissance, Katal exprime donc sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. D'ailleurs, le clip illustre cette thématique avec des images poignantes qui retracent son cheminement artistique.
Nene kamereza million bom trobo. On se dorme à nos founouye. Nya bagbe à nous kounouye. Every day nos fans nos dakbe. Dakbe na maouye. On se dorme à nos founouye. Nya bagbe à nous kounouye. Every day nos fans nos dakbe. Dakbe na maouye. Oh oh. Le réveil est un combat. Mon ami réjouis-toi. Chaque jour suffit sa peine. Tout est grâce, oh.
Une découverte intéressante à mettre dans toutes les playlists de ce week-end. On va changer de rythme avec les deux icônes de la musique camerounaise, Blanche Bailly et Lady Ponce.
Tout à fait, deux icônes issues de deux générations différentes. Blanche Bailly et Lady Ponce viennent marquer les esprits avec leur collaboration inédite « Lève-toi ». Qui est finalement la rencontre de l'afropop et du bikutsi. Blanche Bailly et Lady Ponce adressent un message intergénérationnel de résilience et surtout de solidarité féminine. Les deux divas encouragent les femmes à se lever face à leur conjoint, à s'affirmer et à prendre leur place dans le couple comme dans la société.
On dit que l'union fait la force, toi et moi c'est ton pied, mon pied. Mais je frappe à la porte, je veux pas te lever. Avec toi je connais pas mon nom. Chérie mon corps réclame ta main. J'ai dit que c'est ton pied mon cœur. Aujourd'hui c'est donné ton nom. C'est Dieu qui t'a donné. Bébé oh.
Alors c'est toujours très rythmé hein, dès qu'il y a du Bikutsi dans l'air. Sans transition, Hervé, on va enchaîner avec la traditionnelle séquence rétro du jeudi dans l'Afro Club. Et vous nous ramenez en 95, une année de la sortie du tube Let It Flow de Toni Braxton, tiré du film Où sont les hommes ?
Oui, c'était il y a 30 ans déjà que le long métrage Waiting to Exhale, Où sont les hommes pour la version française, cartonnait au box-office. Il est depuis devenu un film emblématique de la sororité afro-américaine. Réalisé par Forest Whitaker, le film est basé sur les vies de quatre femmes afro-américaines explorant leurs défis amoureux, professionnels et personnels avec au casting Whitney Houston, Angela Bassett, Loretta Devine et Lila Rochon. La bande originale du film produite par Babyface, non ce n'est pas un cousin éloigné de DJ Facemaker, est une compilation de morceaux interprétés exclusivement par des artistes afro-américains dont Toni Braxton et son tube certifié 6 fois disque de platine Let It Flow.
First thing Monday morning, I'm gonna pack my tears away. Got no cause to look back. I'm looking for me a better day. See the thing about love is that it's not enough if the only thing it brings you is pain. Comes a time when we could all make a change, darling. Just let go.
Une séquence rétro-historique avec Toni Braxton. Et pour conclure cette sélection Afro Club, on revient en 2025 avec le chanteur tchadien Egon.
Egon qui vient enrichir le paysage musical de son pays avec sa voix très prometteuse. Egon allie tradition et influence contemporaine dans les titres. Django, qui est en train de se faire une place au soleil grâce à son approche novatrice et son engagement pour la culture du Tchad. Je suis sûr que Django sera votre chanson préférée de la sélection de ce soir, Sylvie. D'autant plus que Egon rend accessible le patrimoine musical tchadien aux nouvelles générations. Une prouesse qui touche les auditeurs du continent et même au-delà.
Et c'est donc avec Egon que l'Afro Club referme ses portes en ce jeudi 24 avril. Et j'encourage tous nos auditeurs à réécouter le podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Et même sur notre site internet RFI.fr. L'Afro Club sera de retour dès lundi sur RFI Musique et tous les réseaux sociaux de la radio mondiale. Soyez patients d'ici là et restez bien à l'écoute d'Afrique Soir avec Jonathan Brady à la réalisation. Et bien sûr, celle qui nous informe tous, Sylvie Berruet.
C'est ainsi que s'achève la première édition d'Afrique Soir de ce jeudi. Un coup d'œil au programme qui vous attend parce qu'il vous reste encore une heure de la session d'info soirée de RFI. Après le journal de Sébastien Farcy, ce sera l'heure de son décryptage et il sera question ce soir de financement de la transition écologique qui est au cœur des discussions qui sont menées actuellement lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, le Fonds monétaire international. Et puis 30 minutes plus tard, eh bien, ce sera l'heure de la deuxième édition d'Afrique Soir présentée par Sylvie Berruet. Et puis le grand reportage, 19h40 temps universel, donc 40 minutes, grand reportage qui nous emmènera ce soir en Côte d'Ivoire sur les pistes du trafic de cacao. Voilà, vous savez tout, eh bien, ne bougez pas, on revient dans une minute sur Radio France Internationale.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Comme chaque semaine, un sujet de santé au féminin est traité de manière pratique. Demain, Caroline Paré aborde la question de l'arthrose. Cette maladie articulaire du cartilage concerne 18% des femmes contre 9,6% des hommes. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées ?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI. Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, envoyez vos textes, drames ou comédies avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.